RCF.
Point d'interrogation, l'émission qui s'interroge, en collaboration avec le magazine franc-comtois numérique, participeprésent.net.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On avait parlé à un moment donné des grenouilles, on a parlé des castors, on a parlé des blaireaux. Donc, point d'interrogation, on va continuer son petit tour des espèces emblématiques dans notre région. Alors, parmi elles, il y a la chauve-souris. Donc aujourd'hui, on va parler de la chauve-souris. C'est un côté un peu mystérieux. Il y a beaucoup de croyances, des superstitions autour de cet animal. Ils sont colportés de façon tout aussi farfelue les unes que les autres. Et donc, pour en parler, nous sommes avec l'un de nos spécialistes préférés, donc Vincent Adams de Gera Nature Environnement. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Eh bien voilà, donc les chauves-souris, alors on ne sait pas si c'est un oiseau, un mammifère, un rongeur. Bon, j'ai lu aussi qu'elle mordait au cou pour sucer le sang. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux ça, mais racontez-nous un peu comment vivent les chauves-souris, comment elles se reproduisent, quel est l'habitat.
Alors déjà la chauve-souris, on va parler des chauves-souris, hein. Il y a de nombreuses espèces dans le monde, hein, près de 1000 espèces à travers le monde. Donc c'est des animaux nocturnes, essentiellement insectivores, mais dans nos contrées, hein, sinon il y a des frugivores, même des chauves-souris qui mangent des poissons, des oiseaux, etc. Donc les nôtres sont insectivores, vivent la nuit, hibernent 6 mois de l'année, vivent donc 6 mois, les autres 6 mois, donc ont une longévité assez forte et vivent assez discrètement, cachés dans des arbres, cachés dans des cavités naturelles, des grottes, ou de plus en plus avec la sédentarisation de l'espèce humaine, dans les greniers, dans les combles, dans les anciennes mines, dans les tunnels désaffectés, etc. C'est des espèces qui ont un ordre particulier, hein, comme il y a les carnivores, comme il y a les rongeurs, etc. C'est l'ordre des chiroptères, chiros, mains, ptères, ailes, donc qui ont des ailes, des mains en forme d'ailes, qui existent depuis 50 millions d'années. Donc ce sont des petits objets de technologie miniaturisée de pointe. La plupart pèsent quelques grammes, quelques dizaines de grammes, puis quelques dizaines de centimètres d'envergure. Mais des animaux qui sont très farouches et qu'on voit très peu, à part nos fameuses pipistrelles volant au-dessus des lampadaires la nuit.
Donc c'est celle qu'on voit le plus chez nous, par nos contrées franc-comtoises. Là. Mais en Franche-Comté, il y a 1000 espèces dans le monde, on en a combien en Franche-Comté? Comment on les reconnaît? C'est vrai qu'elles sont prolifiques d'ailleurs?
Les nôtres, hein, donc sur 1000 espèces dans le monde, il y en a 34 en France d'espèces. Donc on se rend compte que l'Europe est une région peu prolifique, pour le coup en espèces de chauves-souris. Et sur les 34 françaises, il y en a 28 en Franche-Comté, liées au fait qu'on ait des réseaux karstiques, des milieux un peu méditerranéens, des influences montagnardes, un peu d'influence océanique. Donc voilà, on a 28 des 34 espèces françaises, donc c'est pas mal. Pas prolifique du tout, les nôtres ne font qu'un jeune par an. Et après, c'est pour ça que je vous dis que les chauves-souris sont un peu longévives. Une pucerelle va vivre 12 ans, les plus grosses vont vivre jusqu'à 20 ans. Donc elles vont faire peu de jeunes par an, mais dans la vie d'une femelle, elle va pouvoir mettre bas, pendant à peu près du foie, donc elle va donner naissance à 10, 15, 16 jeunes, qui eux aussi vont vivre relativement longtemps. Donc comme on les reconnaît, c'est très différent, il y en a donc, je vous dis, la pipistrelle, il y a déjà 4 espèces de pipistrelle chez nous, il n'y a pas que la pipistrelle classique, qui pèse 5 grammes, toute petite, mais à l'extrême, on en a qui font jusqu'à 40-50 cm d'envergure, et puis au milieu, il y a plein de formes différentes, il y en a qui vont chasser, donc elles envoient des ultrasons, hein, pour voir avec leur son. Il y en a qui vont envoyer ça avec la bouche, il y en a qui vont envoyer ça avec le nez, les rhinolophes. Il y en a qui vont chasser dans les frondaisons, un peu comme les martinets et les hirondelles, en hauteur, chasser les insectes. Il y en a qui vont faire du survol sur place pour aller cueillir les insectes sur les feuillages. Il y en a qui vont chasser en rase-motte sur les pelouses. Et donc, sur toutes ces espèces-là, il n'y en a aucune qui va se concurrencer avec les autres. Chacune ont des niches écologiques et des écologies très particulières qui leur permettent de cohabiter sur un même espace, avec évidemment une mosaïque de milieux, d'habitats diversifiés, mais qui vont pouvoir cohabiter sans se rentrer en concurrence les unes des autres.
Oui, j'ai vu aussi, ça m'a paru curieux, que il y avait des espèces de nurseries pendant que certains vont chasser, les autres, c'est ça le...
Enfin, ça, l'été, bon, généralement, les plus grosses colonies, ce seront des colonies de femelles, donc ils vont mettre bas leurs petits, qui vont aller chasser, et une fois que les jeunes seront assez grands, donc elles ne pourront plus chasser avec le petit nouveau-né sur le ventre, et ben elles vont les laisser, donc faire des nurseries. Il y a des tentes, des mères qui auront mis bas un peu plus tardivement, qui vont rester dans les grottes, dans les mines, dans les sites de reproduction, généralement des milieux assez chauds, pendant que les autres vont les chasser. Les autres individus, les mâles ou les jeunes non reproducteurs, eux vont faire des colonies un peu plus réduites, voire même en isolées. Et généralement, les grosses populations de reproductrices, les gros effectifs, on peut avoir quelques dizaines, voire un millier d'individus dans une mine ou dans une grotte en train de se reproduire. Voilà, ce sont quasiment essentiellement des femelles qui se tiennent chaud les unes avec les autres. C'est des animaux qui, intéressant, aiment beaucoup la chaleur l'été. Et donc, le groupe fait de la chaleur, qui fait que quand il y a des baisses de température en été, ça peut arriver, surtout dans le Jura, et ben la température corporelle leur permet de maintenir en activité des jeunes qui sont très sensibles au froid.
Eh ben, nous faisons une petite pause et puis nous continuerons à découvrir ces chauves-souris bien intéressantes juste après.
Point d'interrogation sur RCS Jura par Claude Borcard du club des lecteurs du magazine Franc-Comtois numérique participeprésent.net.
De retour avec Vincent Adams pour découvrir, continuer à découvrir un peu les chauves-souris. On a parlé un peu de la vie, on n'a pas parlé de la famille, puisque finalement il n'y a pas de famille, si j'ai bien compris. Mais bon, tout le monde a déjà vu un peu des chauves-souris en chasse, c'est vraiment un vol très spécial. Alors, pas de famille, mais des vols spéciaux, comment on peut un peu montrer ça?
Bah, donc en fait voilà, au vu de la diversité d'espèces, voilà, chacune va avoir des caractéristiques de vol. Donc de toute façon elles chassent tous avec des ailes assez puissantes. Donc en fait c'est pas un prolongement de la main, mais c'est les doigts qui se seront allongés à l'extrême pour après avec des membranes qui vont se tendre à l'extrémité des différents doigts. C'est l'évolution. Elles volent avec des doigts allongés en fait, voilà. Et pas faut pas imaginer la membrane qui va du bout des doigts jusqu'en bas des pattes, hein. C'est pas ça. Et donc elles ont développé une technique qui leur permet, selon certaines espèces, de pouvoir voler jusqu'à 50 km/h pour aller chasser des gros hannetons au-dessus des forêts. Et d'autres, je vous dis, qui sont capables de faire du vol sur place, à des quasiment récupérer un petit papillon nu qui sera blotti contre une feuille pour éviter et pour aller le cueillir comme on cueillerait une cerise dans un arbre. Donc voilà, elles ont aussi cette membrane a une propriété, c'est que si en allant dans le feuillage ou en se prenant une branche, elle peut se déchirer. Cette membrane va se cicatriser d'elle-même. Donc voilà, elle a des capacités très... Voilà, une chauve-souris sans membrane ne peut plus voler. Elle s'auto-régénère, un peu comme la queue d'un lézard. Et ce qui est rigolo aussi, certaines les utilisent aussi en hibernation. Donc je vous évoquais tous les runolophes, les chauves-souris qui se déplacent en envoyant des sons avec leur nez. Essayez un peu pour voir, je vous mets au défi. L'hiver, elles se blottissent, enveloppées comme un petit vampire. Elles se retournent, pendues sur leurs orteils, et elles se blottissent à l'intérieur de leurs ailes, comme l'image qu'on a de films de vampires, de Dracula, dans sa grande robe, son grand manteau. Voilà, donc il y en a qui utilisent aussi leurs ailes pour se tenir au chaud.
Donc, alors, quand on les voit en chasse au-dessus de chez nous, il y a des mâles et des femelles, ou juste là sont juste les femelles? Et puis, alors, elles mangent des moustiques, si j'ai bien compris, mais... Mmh. Par exemple, les abeilles ou d'autres, ça fait partie des moustiques ou pas?
En fait, ouais, donc elles chassent quasiment toutes des insectes, hein, ça c'est sûr. Donc après, les petits diptères, voilà, les petites mouches, les moustiques sont des proies de prédilection, mais en fonction de la taille des individus, de leur appétit et de leur méthode de chasse, ça peut être aussi beaucoup, beaucoup de papillons de nuit, des hannetons. Après, voilà, elles vont ne chasser que les insectes qui volent la nuit. Et donc les abeilles dorment la nuit, elles ne sont pas impactées par les chauves-souris. Après, il faut voir aussi que sur ces 28 espèces franc-comtoises, il y en a quelques-unes qu'on voit chasser autour des lampadaires, parce qu'évidemment, on sait que les lampadaires simulent des lunes et que pas mal d'insectes de nuit s'orientent avec la lune, donc se font piéger, entre guillemets, par ces pièges lumineux. Donc les chauves-souris viennent les chasser. Il faut savoir que sur les 28, il y en a peut-être 3, 4, 5 qui ne sont pas lucifuges, c'est-à-dire qui profitent de cette manne alimentaire et ne sont pas incommodés par la lumière. Toutes les autres fuient les lampadaires. Et donc l'éclairer de trop la nuit, des bâtiments, des églises ou des vieux bâtiments peuvent faire disparaître les chauves-souris, parce que la grande majorité des chauves-souris ne supportent pas la lumière de la nuit, ce qui est un peu logique.
On va parler peut-être un peu après justement des problèmes, des risques pour ces espèces. Si j'ai bien compris, c'est 2 kilos de moustiques par été pour une chauve-souris, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, elles ont un métabolisme assez important. Puis surtout, quand une femelle doit nourrir son jeune, au fur et à mesure, voilà, si on accumule le poids représenté par cette biomasse consommée, voilà, ça se compte en kilos, effectivement. Donc des colonies de 200, 300, 400 chauves-souris, on peut imaginer le poids que ça fait en moins de moustiques sur notre peau.
Voilà, on voit bien, et ceux qui n'aiment pas les moustiques la nuit, ils voient bien l'intérêt des chauves-souris. Ah, on dit souvent qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est vrai, c'est faux? C'est quoi le risque pour ces espèces?
Il faut imaginer que les chauves-souris qui vivent dans nos contrées ont profité d'un paysage traditionnel, des vieilles bâtisses, un paysage de haies, de bocages, avec des prairies extensives, peu de pesticides, hein, l'agriculture moderne, elle a à peine 50 ans. Et donc, c'était les périodes de grâce des chauves-souris. Et du fait de l'intensification de nos pratiques, de l'urbanisation, des pesticides, donc l'industrialisation.
La lumière aussi.
La lumière, ouais. Beaucoup, beaucoup d'espèces ont disparu en effectif, enfin vraiment vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil. C'est vrai que l'abattage des vieux arbres, la pose de grillage dans les édifices publics, les traitements des charpentes avec des produits toxiques, évidemment l'usage du pesticide, hein, qui est dans la chaîne alimentaire, les chauves-souris sont le super prédateur des insectes, donc se font empoisonner. Les destructions directes aussi, hein, les rumeurs des chauves-souris qui s'accrochent dans les cheveux, etc., ont fait qu'il y avait des chauves-souris qui étaient encore clouées il y a 40 ans sur les portes pour conjurer le mauvais sort. Donc voilà, il y a les atteintes directes aux chauves-souris ont fait qu'elles ont perdu pour certaines 40, 50, voire 70% de leurs effectifs. Et donc les dernières colonies connues, maintenant, inventoriées, sont pratiquement toutes protégées, je pense notamment aux cavités souterraines, pour essayer de limiter la casse. Sauf que l'évolution du paysage et de l'agriculture continuant ainsi, il y a des grosses difficultés à maintenir des effectifs stables pour les espèces qui notamment sont les plus menacées.
Donc il y a une baisse en effectif. Alors, juste pour terminer très rapidement, si je repère des chauves-souris derrière mes volets, qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Donc il y a des organismes qui sont prévus pour cela. Donc déjà vous pouvez contacter Jura Nature Environnement en trouvant nos coordonnées sur notre site internet. Nous on relaiera l'information à une association régionale, qui s'appelle la SPEPESC, la CPEPESC. Donc on dit SPEPESC, qui est basée à Besançon et qui a 3 salariés en charge de l'étude des chauves-souris et de leur protection en Franche-Comté. Donc voilà, leurs coordonnées, c'est rue Borgard à Besançon. Mais au moins nous contacter, on est preneurs, on diffusera l'info à qui de droit pour améliorer les connaissances, le respect et la protection de ces animaux fabuleux.
Eh ben, merci à Vincent de nous avoir fait découvrir ces chauves-souris. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
C'était Point d'interrogation en collaboration avec le magazine franc-comtois numérique participeprésent.net.